Les matins débutent avec le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et justement, la suite et la fin des municipales. Cela aura lieu soit au mois de juin prochain, soit au mois de janvier 2021. Proposition hier soir du Premier ministre qui semble tout de même privilégier le mois prochain, vous l'entendrez.
Mais nous nous demanderons justement, Clara, dans la question du jour ce jeudi, quels sont les scénarios possibles pour un second tour. Bruno Daugeron sera notre invité après ce journal. Il est professeur de droit public à l'Université de Paris-Descartes, spécialiste de droit constitutionnel et de droit électoral.
Avant de le retrouver, vous comprendrez pourquoi le gouvernement planche sur un plan d'aide pour tout le secteur automobile. Les vendeurs de voitures pourraient être privilégiés face aux constructeurs.
Et puis nous reviendrons également sur la réforme promise pour l'hôpital public. Le constat fait par le gouvernement est le bon, souligne le collectif Inter-Hôpitaux.
Enfin, la fin du franc CFA a été officialisée hier en Conseil des ministres. Il sera remplacé par l'ECO, la monnaie commune ouest-africaine. Nous y revenons dans 10 minutes. Les choses se précisent donc pour le second tour des municipales. Le Premier ministre a reçu hier à Matignon les chefs de partis politiques pour recueillir leur avis. Et Édouard Philippe leur a proposé, Stéphane Robert, deux dates.
Soit le second tour des municipales se tiendra au mois de juin, soit il y aura deux tours en janvier 2021, a dit hier soir Édouard Philippe. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, était à cette réunion des chefs de parti à Matignon.
Le Premier ministre a exclu le mois de septembre-octobre pour des raisons liées à la rentrée scolaire et puis la rentrée tout court. Et il exclut le mois de mars parce qu'on ne peut pas organiser très facilement trois scrutins le même jour.
Une hypothèse semble malgré tout être privilégiée. La fin du mois de juin, il n'y a même plus vraiment d'interrogation, selon le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.
Alors, le Premier ministre a affirmé que la décision n'était pas prise, mais très franchement, j'ai eu la furieuse impression qu'elle l'était déjà.
C'est vrai, reconnaît Olivier Faure, que la fin du mois de juin semble convenir à quasiment tout le monde. Car il n'y a pas vraiment de raison, selon lui, de repousser l'échéance.
Au moment où on déconfine l'économie, on ne peut pas continuer à confiner la démocratie. Mais moi, je souhaite qu'on prenne toutes les garanties, donc qu'il y ait un protocole sanitaire strict et qu'il y ait surtout une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'on se revoie quelques jours avant le scrutin pour vérifier qu'il n'y a pas de rebond épidémique possible.
Jean-Christophe Lagarde, quant à lui, a été l'un des rares hier soir à exprimer son désaccord.
On ne sait pas si les conditions sanitaires seront réunies. Est-ce qu'on peut décemment avoir une campagne électorale dans ces conditions? Certains, la majorité des partis, considèrent que on doit faire l'élection parce que maintenant, il faut qu'on tourne la page. Ce n'est pas mon cas.
Édouard Philippe doit prendre sa décision d'ici une semaine, avant le 27 mai. Le Conseil scientifique n'a pas exprimé d'opposition formelle et la date du 28 juin semble aujourd'hui tenir la corde pour le second tour des élections municipales.
Et d'ici là, toujours pas de rassemblement possible de plus de 10 personnes en France dans l'espace public. En ce week-end prolongé de l'Ascension, les forces de l'ordre seront mobilisées pour contrôler les voyageurs sur les routes et dans les gares, car il est toujours interdit, je le rappelle, de se déplacer à plus de 100 km de son domicile, sauf pour motif professionnel ou personnel impérieux. Je vous le rappelle également, le montant de l'amende, 135 € par personne, 200 € en cas de récidive. Côté circulation aujourd'hui, Bison Futé prévoit une augmentation du trafic sur tout le territoire, tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période. Le secteur automobile compte ses pertes en ce moment. Moins 76% de ventes en Europe pour le mois d'avril. Les constructeurs prévoient donc des plans de relance et cela pourrait passer par des fermetures de sites en France chez Renault. Le Canard Enchaîné en faisait écho hier. Le groupe n'a pas démenti. La direction s'exprimera à ce propos la semaine prochaine. Et en attendant, le gouvernement prépare également un plan de soutien qui devrait concerner, lui, tout le secteur automobile, pas seulement les constructeurs, mais aussi les concessionnaires, les loueurs, les centres de réparation. On pourrait ainsi imaginer des aides à l'achat en l'état. C'est ce que suggère Bernard Julien, économiste de l'automobile, maître de conférence à l'Université de Bordeaux.
Je pense qu'il y a aujourd'hui une très forte demande qui est de soutenir les commerçants de l'automobile qui, eux, ont des stocks de véhicules d'occasion très importants. Donc on va voir effectivement si on privilégie les usines ou les concessions et l'écoulement de leurs stocks. Si on privilégie les usines, on dira vous n'aurez d'aide que si vous achetez des voitures neuves. Si, comme ça semble être le cas, on considère qu'il y a un vrai problème de survie d'un certain nombre de distributeurs automobiles, on les aidera à écouler leurs stocks et dans ces cas-là, on dira, on va aider les gens à acheter des véhicules récents et non pas seulement des véhicules neufs. En termes de trésorerie, pour les réseaux de distribution, c'est absolument dramatique, hein. Ils sont au bord du gouffre, quoi. Si on arrive à écouler ces stocks-là, ce sera au prix d'une dégradation très forte de la profitabilité de l'ensemble des acteurs, les concessionnaires d'abord, mais aussi les industriels.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Autre secteur dont la crise a été soulignée par l'épidémie, le système de santé, dont la Commission européenne a demandé hier à la France de renforcer la résilience, pointant les lacunes dans la préparation à ce type d'événement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit justement lancer lundi prochain une grande consultation des acteurs du secteur, consultation baptisée Ségur de la Santé, une réforme. Il a promis des mesures d'ampleur, affichant l'ambition d'aboutir mi-juillet avec des hausses de salaire pour les soignants, mais aussi un assouplissement des 35 heures. Aurélie Kiefer a interrogé à ce propos Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris, membre du collectif Interhôpitaux, un collectif mobilisé pour la défense de l'hôpital public depuis plus d'un an.
On a l'impression qu'ils font le constat, finalement, après très longtemps, que l'hôpital entreprise ne fonctionnait pas. Et que la gestion basée uniquement sur des notions de productivité et d'activité font que l'hôpital aujourd'hui est exsangue et que les gens ne trouvent plus de sens dans leur travail. Donc on a l'impression que le constat est fait. On espère qu'on va repartir du soin, des besoins de soins de la population, des besoins de santé publique pour organiser l'hôpital et plus partir d'un besoin de diminuer les budgets consacrés à la santé et à l'hôpital public pour gérer l'hôpital. On a l'impression que c'est ça qu'il y a derrière les annonces. Il faut faire attention parce que il y a aussi une tendance en ce moment à ce que les gens, à certaines parties des politiques, poussent pour remettre en cause le statut de l'hôpital public. Nous, il nous semble qu'on a encore plus besoin de services publics, encore plus besoin d'hôpital public en ce moment où on sait qu'on va rentrer dans une crise économique et sociale très sévère. Et donc, c'est un moment où les services publics sont très importants dans le pays. Donc voilà, on n'acceptera pas une transformation en statut privé, même à but non lucratif.
Les soignants qui sont toujours mobilisés dans les hôpitaux pour lutter contre la Covid-19, une éclaircie hier soir. Selon Olivier Véran, il n'y a pas pour l'heure de signe de recroissance de la circulation du nouveau coronavirus. Coronavirus qui a fait au moins 28 130 de morts en France, selon le dernier bilan donné dans la soirée.
Et puisque ça ne recroît pas, vous avez parlé de recroissance, Clara, le déconfinement se poursuit en Europe et votre journal aussi à 7h07 sur France Culture.
Effectivement, Guillaume. Un déconfinement qui se poursuit avec la préparation des vacances d'été, notamment cruciale pour le secteur touristique européen. Alors, si aucune décision concernant les voyages en Europe n'a été prise pour ce qui concerne les Français, ce pourrait être fait d'ici le 15 juin d'ailleurs. Parallèlement, d'autres pays européens prévoient déjà leur été. L'Italie rouvrira ses aéroports et les liaisons avec l'Europe le 3 juin. Ce sera le 1er juillet pour la Grèce. Et quand certains pays retrouvent donc un petit peu de liberté malgré la crainte d'une deuxième vague de malades, d'autres s'interrogent sur l'image qu'ils ont pu renvoyer à l'étranger ces dernières semaines. C'est le cas de la Suède qui n'a pas à gérer de déconfinement puisqu'elle n'a jamais confiné. Seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, mais pour le reste, le royaume scandinave a laissé ouvert les écoles, les restaurants et les cafés. Les Suédois sont seulement incités à télétravailler et à respecter les règles de distanciation physique. Cela devrait d'ailleurs durer, Louise Baudet.
Depuis le début de la pandémie, la Suède parie sur le long terme. Nous sommes engagés dans un marathon, répètent les autorités, qui privilégient une gestion souple de la pandémie, basée sur le civisme et la confiance mutuelle, espérant ainsi échapper aux angoisses du déconfinement, mais aussi à la seconde vague, ailleurs redoutée. Apprendre à vivre avec le virus, en Suède, ce mot d'ordre fait consensus. Pourtant, l'exception suédoise a sa face sombre. Le taux de décès par habitant est presque 6 fois plus élevé qu'ailleurs en Scandinavie, et il vaut au royaume une triste 6e place mondiale juste derrière la France. Mortalité record dans les maisons de retraite, sous-financées où travaille une main-d'œuvre précaire et non qualifiée. Les aînés privés qui plus est de droits de visite, l'une des rares interdictions en vigueur dans le royaume. De quoi nourrir à l'étranger l'image d'un pays où le pragmatisme confine à la froideur, voire à l'indifférence. La Suède s'en inquiète d'ailleurs, d'autant que ses voisins lui ferment la porte. Pour l'heure, les Suédois ne sont pas les bienvenus dans la bulle de voyage envisagée par les autres pays scandinaves.
La Suède encore qui propose avec 3 autres pays européens une alternative au plan de relance franco-allemand. Ces 4 pays frugaux demandent davantage de garanties pour que les États bénéficiant d'une aide adoptent des réformes. Ils vont donc plaider pour que toute aide prenne la forme de prêts et non de subventions. C'est la fin d'un symbole historique que nous vous annoncions en fin d'année dernière. La fin du franc CFA a été actée hier en Conseil des ministres. Le projet de loi entérine la fin de cette monnaie considérée comme un vestige de la colonisation. De nombreux habitants d'Afrique de l'Ouest réclamaient sa disparition, Claude Guibal.
La fin du franc CFA dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est une des causes les plus populaires parmi la jeunesse et les militants panafricanistes qui y voyaient un symbole colonialiste, un symbole de dépendance et de servitude économique. Le franc CFA est la monnaie de 8 des 15 pays de la CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, mais aussi Mali, Niger, Sénégal et Togo vont donc se détacher de ce CFA. Cette réforme ne concerne pas en revanche les 6 pays d'Afrique centrale qui, eux aussi, utilisent le franc CFA, mais au sein d'une autre zone monétaire distincte. L'un des points majeurs de ce texte est la fin de l'obligation pour la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Pour les opposants au franc CFA, cette centralisation des devises auprès du Trésor français était considérée comme une preuve d'asservissement à l'ancienne puissance coloniale. Pour l'instant, la parité fixe avec l'euro du franc CFA va être maintenue jusqu'à la création effective de l'ECO, la nouvelle monnaie commune ouest-africaine, la fin symbolique de la France-Afrique pour de nombreux ouest-africains, une promesse d'Emmanuel Macron lors de son voyage inaugural en Afrique à Ouagadougou quelques mois après son élection.
Près de 11 000 personnes ont été évacuées il y a quelques heures outre-Atlantique dans le centre du Michigan. 2 barrages ont en effet débordé, faisant craindre des inondations historiques dans cet état du nord des États-Unis. De l'eau ravageuse, c'est le cas en ce moment en Inde, où le cyclone Amphan a touché terre hier soir. Il est accompagné de pluies torrentielles et de rafales jusqu'à 185 km/h. 3 millions de personnes ont déjà été évacuées. 9 personnes ont trouvé la mort en Inde et au Bangladesh. Voisin. Pas plus d'informations pour le moment, mais les quelques images montrent déjà des villages dévastés. Le temps à présent en France métropolitaine, il s'annonce heureusement plus sec et lumineux en ce jeudi de l'Ascension. Chaud surtout avec ce matin déjà 19 degrés à Rennes, 23 à Lille, Besançon et Bordeaux, 26 degrés à Paris et 27 ce matin à Perpignan.